Je vais vous parler de la littérature de RDA dans le sillage de l'affaire Biermann. Et avant de commencer à vous parler de cette affaire que la plupart d'entre vous, je crois, ne connaissent pas, je voudrais commencer par quelques considérations générales afin de bien situer la place spécifique qu'occupe la scène littéraire en RDA. Ceux qui s'intéressent à l'historiographie des deux Allemagnes ne peuvent manquer d'être frappés par le fait que nous avons affaire à deux types de récits historiques très différents. Ce qui apparaît dans l'historiographie de la RFA comme le moteur de l'histoire, c'est une série d'événements avec des interactions de tous ordres, sociales, politiques, économiques, techniques. Et l'historien est alors porté par le sentiment que l'histoire, c'est toujours l'histoire d'un mouvement. Alors que l'histoire de la RDA, surtout l'histoire de ses institutions omniprésentes, peut se lire comme une répétition inlassable du même, une immobilité traversée de variations qui sont quelquefois dont on arrive peine à estimer la portée. Les événements de 89-90 ont pourtant montré la capacité de mouvement des Allemands de l'Est. Et je dirais en préambule que l'accusation d'immobilisme ne doit pas faire oublier que, comme le soulignait déjà Hans Meyer dans son autobiographie Ein Deutscher auf Widerruf, la RDA était un régime sous occupation soviétique. C'est pourquoi je vais m'intéresser aussi au champ d'opposition, parce que là, c'est beaucoup plus en mouvement, et la littérature est un de ces champs d'opposition. Quelques considérations sur la vie culturelle dans les deux Allemagnes, puisqu'on essaye de faire une étude un peu comparée. La politique culturelle de RDA est marquée par une censure et un contrôle de manière générale qui sont entrecoupés de périodes de dégel, c'est-à-dire de libéralisation. En décembre 1971, une petite phrase prononcée par le premier secrétaire du parti semble autoriser une plus grande liberté. Erich Honecker affirme en effet, devant le comité central réuni en session plénière, qu'à partir des positions fermes du socialisme, il ne saurait y avoir aucun sujet tabou pour l'art ou la littérature. Je vais lire la phrase donc en allemand. Wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben. Das betrifft sowohl die Fragen der inhaltlichen Gestaltung als auch des Stils, kurz gesagt die Fragen dessen, was man die künstlerische Meisterschaft nennt. Donc, ça semble inaugurer une période de libéralisation. Pourtant, la suite ne dérogera pas à la règle de l'alternance coutumière de phases de libéralisation et de phases de répression, puisque la suite, c'est l'expulsion, ce sera l'expulsion en novembre 1976 vers la RFA du poète et chanteur Wolf Biermann, ou plus exactement son interdiction de retour accompagnée d'une déchéance de la nationalité est-allemande, ce qu'on appelle Ausbürgerung en allemand. Mais avant d'aborder le détail de l'affaire Biermann et son analyse, je voudrais encore souligner la différence entre les places respectives qui sont dévolues à la littérature et aux écrivains en RDA et en RFA. La confrontation accrue de la RDA avec la RFA depuis les débuts de l'Ostpolitik met en contact deux mondes radicalement différents. La RFA, c'est un truisme, mais bon, voilà, je le répète quand même, et depuis le miracle économique des années 50, donc la RFA est une société de consommation dans laquelle l'acquisition de biens matériels est devenue massivement le moyen de se définir, tandis qu'en RDA, au contraire, une économie de pénurie, Mangelwirtschaft, bloque l'accès aux biens matériels et impose d'autres éléments d'autodéfinition. L'écrivain occidental est appelé à survivre comme tout entrepreneur qui vend sa production. Si ses ventes ne sont pas suffisantes, il faut qu'il exerce un autre métier. Des travaux sociologiques très intéressants sont consacrés à cette chose dans cette maison même. L'écrivain de RDA, au contraire, ne subit pas les contraintes économiques. D'une part parce que la vie en RDA n'est pas chère. On a parlé ce matin de la stabilité des prix. Mais aussi parce que le contrôle exercé sur lui par l'État passe également par une prise en charge matérielle. Il en résulte qu'on ne peut pas évaluer l'impact des œuvres d'art de la même façon. Le chiffre de vente n'a aucune importance en RFA. Si à l'Ouest, c'est effectivement un indicateur auquel on revient toujours, en RDA, c'est un indicateur qui est complètement absurde. Je voudrais citer ici le roman, par exemple, « Nachdenken über Christate » de Christa Wolf, qui a déclenché en 1967 une polémique dans les colonnes de la presse est-allemande, alors que le livre était introuvable en librairie. Il n'était pas publié. Dans ce contexte, d'ailleurs, le simple fait de nouer des contacts privilégiés avec son libraire, d'obtenir de lui qu'il vous réserve un livre rare ou introuvable, ou qu'ils vous fournissent des tuyaux confidentiels, tout cela procède déjà d'un acte subversif. La place qu'on accorde à la littérature dans le champ du pouvoir est également très différente à l'Ouest et à l'Est. Au risque, encore une fois, de répéter quelques banalités, il faut rappeler qu'en RFA, pays démocratique, ce que l'on appelle l'opinion publique ou Öffentlichkeit comprend de multiples acteurs et permet des controverses qui en sont l'essence même. La RDA, où les organes de presse sont contrôlés et les partis mis sous chape, la vie publique se réduit à quelques polémiques, parfois orchestrées d'en haut, ou bien résultant d'un acte d'insoumission isolé. C'est pourquoi la littérature se voit ici investie de tâches qui ne sont pas les siennes en RFA. Elle se préoccupe par exemple de germanistique, je ne sais pas si je peux développer, mais lorsque les écrivains sont scandalisés par la manière dont l'histoire littéraire est présentée dans les manuels scolaires ou universitaires, ils se mettent à rectifier ça eux-mêmes en écrivant des textes sur l'histoire de la littérature. Et elle se préoccupe aussi de journalisme, par exemple en publiant des témoignages qui, à l'Ouest, auraient relevé du simple reportage. Et même de politique, c'est-à-dire qu'en l'absence de débats contradictoires, la littérature devient un des lieux où s'articule la rupture avec le dogme officiel pour qui sait ou qui croit savoir décrypter le texte. Ceci est d'autant plus vrai que, comme le souligne Erhard Neubert dans son Histoire de l'opposition en RDA, Geschichte der Opposition in der DDR, la subversion est aussi dans le regard du lecteur. Il écrit « Selbstkonformes wurde subversiv gelesen ». Ce rôle politique attribué, à tort ou à raison, à l'écrivain est-allemand doit nous incliner à poser ici la question de sa proximité, évidemment, avec la figure de l'intellectuel engagé en RFA, qui est incarné dans les années 70 par Heinrich Böll ou Günter Grass, je cite ici évidemment les plus connus. Est-ce qu'on peut parler d'une influence du modèle de l'écrivain engagé sur la conception que les intellectuels écrivains ou poètes est-allemands se font de leur métier ? La spécificité du statut des écrivains en RDA tient également à leur proximité avec les cercles de pouvoir. Dans un texte de 1994, Pierre Bourdieu a tenté de transposer aux sociétés du bloc soviétique les catégories de son analyse des rapports de pouvoir dans les sociétés occidentales. Si à l'Ouest, le pouvoir est détenu, selon lui, par les possesseurs du capital économique et ceux du capital culturel, le capital économique étant inexistant à l'Est, il invente, pour qualifier ce qui en tient lieu, la notion de capital politique. Il désigne par là la possibilité offerte aux détenteurs du capital, de la nomenclatura, en fait, de ce capital, donc, d'utiliser pour eux-mêmes les biens publics et les privilèges qu'ils sont les seuls à pouvoir octroyer. Les écrivains est-allemands ont très largement part à ce capital politique. Dès l'origine, la puissance occupante a accordé une grande importance à la manière dont devaient être traités les écrivains. Ceux qui avaient survécu en exil étaient la caution morale d'un régime qui se réclamait de l'antifascisme. On peut citer toutes les institutions, l'école pour écrivains de Leipzig, l'Institut Becher, ou bien le Schriftstellerverband, où les écrivains sont encadrés et incités à travailler ensemble. Et plus tard, vers la fin des années 60, l'émergence d'une littérature de qualité en fait un produit exportable vers l'Ouest, et donc un produit qui intéresse un large public ouest-allemand. Certains écrivains bénéficient du droit inestimable de voyager à l'Ouest, d'y publier leurs œuvres et d'y faire des conférences. Ils sont donc à la fois encadrés, contrôlés, dorlotés, espionnés aussi, et ils entretiennent avec la nomenclatura des rapports en réalité ambigus, parce que s'ils en partagent les privilèges, comme je viens de le dire, ils s'efforcent aussi de la contester, et certaines institutions officielles deviennent ainsi paradoxalement des niches de liberté d'expression, de relative liberté d'expression, comme l'Académie der Künste, der DDR, par exemple, de sorte que les écrivains constituent une opposition interne, catégorie qu'il faut distinguer de la dissidence soviétique, par exemple, qui est, elle, accessible au modèle occidental et qui est en rupture avec le marxisme. Maintenant, quelques considérations sur les conséquences possibles, donc les conséquences de l'ouverture, des échanges accrus entre RFA et RDA, en particulier vers la fin des années 70. L'existence d'une autre Allemagne, où on parle la même langue, dont les autorités accordent le statut de citoyen à tout transfuge est-allemand, représente donc, même en dehors de toute ingérence, un élément perturbateur, qui, même si la comparaison peut paraître audacieuse, n'est pas sans rappeler l'influence de l'anthropologue sur les sociétés qu'il étudie et dont on sait qu'elle modifie l'objet observé et parfois même le détruit, quelquefois par la simple présence. Les interactions entre la RFA et la RDA dans le domaine littéraire doivent s'étudier sur deux plans. Celui des acteurs de la scène littéraire est-allemande, les auteurs donc, et celui des œuvres. Je reviendrai aux œuvres en conclusion, mais enfin, on n'est pas ici, je ne veux pas faire non plus le détail de la vie culturelle pour le contenu, donc je vais parler surtout des acteurs. Ces acteurs est-allemands entrent en contact avec la RFA au travers d'un double déplacement géographique. Des auteurs ouest-allemands sont autorisés à se rendre en RDA et des auteurs est-allemands en RFA. C'est ainsi qu'entre 1974 et 1977, des auteurs ouest-allemands comme Günter Grass, Peter Schneider ou Uwe Jonsson sont autorisés à rencontrer de manière privée chez Bernd Jentsch à Berlin-Est environ 4 fois par an leurs homologues de RDA comme Hans-Joachim Schädlich, Günter Kunert ou Sarah Kirsch. A l'inverse, les mouvements pour la paix du début des années 80 fourniront à certains auteurs de RDA, je peux citer ici Stefan Heim ou Ulrich Plenstorff, l'occasion de participer en particulier à Berlin-Ouest, je te cite un cas, les 22 et 23 avril 1983, à des rencontres donc à l'Ouest. Mais ce double mouvement devient complexe dès lors qu'il s'agit plus seulement, ne s'agit plus seulement d'autorisation, mais d'expulsion, ou seulement, plus seulement de visite, mais de publication ou de prise de parole publique. La RFA offre aux auteurs interdits en RDA la possibilité de trouver un public. Elle leur offre aussi dans ces médias des tribunes ou faire connaître des positions proscrites en RDA. Les autorités allemandes vont réagir au contournement de ces interdictions par le biais ouest-allemand de manière paradoxale. Elles vont réprimer, emprisonner, interdire, assigner à résidence, dans le même temps qu'elles vont utiliser la RFA pour se débarrasser d'une opposition intellectuelle interne de plus en plus encombrante. L'affaire Biermann, qui explose au mois de novembre 1976, recèle presque tous les aspects de l'interaction possible entre Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est et inaugure à l'aube des années 80 une période de dissolution accélérée du milieu littéraire est-allemand, dissolution à laquelle l'existence de la RFA n'est pas étrangère. L'affaire Biermann maintenant, les faits. Wolf Biermann, donc chanteur et poète, est depuis 1973 interdit d'apparition publique en RDA. La fameuse phrase de Honecker que j'ai citée tout à l'heure en décembre 1971, selon laquelle il n'y aurait pas de tabou artistique pour ceux qui sont des socialistes convaincus, se heurte ici à une contradiction patente, car Wolf Biermann a immigré par conviction en 1953, et c'est donc un socialiste convaincu, et pourtant ses textes sont interdits. Le problème majeur que pose Biermann aux autorités tient au fait que ses poèmes et ses chansons contiennent une critique tout à fait explicite du régime. Là, on n'est pas du tout dans la Sklavensprache, mais dans une manifestation tout à fait explicite. Il accuse les tenants du pouvoir de trahir l'essence du socialisme. L'interdiction de se produire en public, en RDA, ne l'empêche pourtant pas de produire des disques en RFA, ni même d'apparaître d'ailleurs sur les écrans de télévision ouest-allemands. Et en 1973, par exemple, la ville de Cologne lui décerne le prix Jacques Offenbach et l'invite à la remise de ce prix. Les autorités lui refusent le visa de sortie, mais en même temps, elles lui proposent de retourner s'installer définitivement en RFA. Donc c'est encore cette ambiguïté dont je parlais tout à l'heure. Heinrich Böll, qui est alors président du Pen Club international, tente d'obtenir l'autorisation souhaitée en vain. Donc, dès avant même l'affaire Biermann, Wolf Biermann se trouve au cœur d'une confrontation Est-Ouest dont les multiples acteurs ont fixé leur partition. Le pouvoir est-allemand veut se débarrasser de lui, Biermann refuse et la RFA joue les perturbatrices. Et les tentatives pour neutraliser Biermann elles échouent parce que la perméabilité des frontières aux médias et à la radio, à la télévision, ne permet plus d'empêcher les apparitions publiques du chanteur. En 1976, une association de citoyens pour la défense de Wolf Biermann se constitue à l'université de Bochum avec une pétition qui rassemble des dizaines de milliers de signatures. Alors, je ne sais pas combien il faut de milliers de signatures à l'Ouest pour avoir l'équivalent est-allemand. Hein. Mais enfin, voilà, c'est quand même très important. Et Biermann est alors plus en vue que jamais. Et il est invité à ce moment-là, entre autres par le syndicat IG Metall, à donner en RFA une série de concerts. Les autorités lui accordent l'autorisation de sortie et le grand concert qu'il donne à Cologne le 13 novembre 1976 devant 7000 spectateurs est diffusé pendant 6 heures par la radio et la télévision, c'est la chaîne ARD, en direction des deux Allemagnes, bien sûr. Personne n'imagine alors que le pouvoir est-allemand puisse lui interdire le retour au risque d'exposer en pleine lumière la nature de son régime. C'est-à-dire qu'on raisonne en RFA en termes d'image publique, parce qu'en démocratie, cette image publique est déterminante. Mais les autorités de RDA, qui ne tiennent pas leur pouvoir de l'opinion publique, décident, au contraire, le 17 novembre 1976, de déchoir Biermann de sa nationalité est-allemande. Et l'agence de presse de RDA, ADN, diffuse le message suivant. Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Voilà l'annonce officielle. Le chanteur est donc présenté comme étant en réalité un citoyen ouest-allemand qui aurait séjourné pour une période désormais close en RDA. L'expulsion de Biermann, donc la Ausbürgerung, suscite à l'ouest comme à l'est une vague de protestations sans précédent. Dès le lendemain, 13 écrivains est-allemands du Schriftstellerverband, donc une association très officielle, signent une lettre ouverte à Erich Honecker, dont le ton mesuré contraste avec le caractère exceptionnel de cette démarche. Cette lettre, rédigée à l'initiative de Stefan Heim, qui sera plus tard le doyen du Bundestag en 1994, et de Stefan Hermlin, est signée par des auteurs connus comme Sarah Kirsch, Christa Wolf, Volker Braun, Franz Fühmann, Günther Kuhnert. Et ils sont bientôt rejoints dans les jours qui suivent par 106 autres signataires. Les organes de presse est-allemands refusant de publier cette lettre ouverte, elle est envoyée à des agences ouest-allemandes, de sorte que l'espace public ouest-allemand est utilisé par des auteurs est-allemands à des fins qui concernent leur propre rapport au pouvoir est-allemand. Donc c'est une situation parfaitement inédite. Et d'ailleurs, plus que la lettre elle-même ou le contenu de la lettre lui-même, c'est justement cette utilisation des médias ouest-allemands pour contourner le verrouillage est-allemand qui pose problème aux autorités de RDA. Car le procédé est révélateur de la méfiance profonde et inédite que l'affaire Biermann vient de faire surgir au grand jour entre les écrivains et les détenteurs du capital politique. Nombre de ces écrivains signataires avaient en effet un accès direct à Erich Honecker. C'était un petit peu ce qu'on décrivait ce matin avec, dans les mouvements de la paix. Erich Honecker recevait volontiers les gens en audience privée. On pouvait discuter, on échangeait des points de vue, et puis ça n'aboutissait à aucun changement politique notable. Donc, en refusant de procéder comme ça, comme par le passé, en rendant publique la lettre ouverte que les autorités voulaient tenir cachée, ils manifestent leur refus de ce que Biermann, justement, appelait le « Feudalsozialismus ». Ils refusent le fait du prince. Ils refusent ce paternalisme condescendant. Et donc, par ce biais, ils ouvrent un champ d'opposition politique, phénomène qui poussera d'ailleurs le dramaturge et écrivain Rainer Müller à proférer cette boutade, je vous la lis. « Wir haben hier in der DDR zwei Parteien, die SED und die Schriftsteller. » C'est donc très vite, l'affaire Biermann dépasse le cas du seul chanteur. C'est d'autant plus vrai que beaucoup de signataires n'apprécient pas Biermann. Ça reste, Biermann était un électron libre et parmi les signataires, il ne compte qu'un seul ami personnel, Jurek Pekka. On lui reproche par exemple d'être vulgaire. Mais tous lui reconnaissent un rôle essentiel. Par l'insolence et par la brutalité de ses textes, il indique la limite de ce qu'il est possible de dire en RDA, comme le dit Werner Mittenzweig. Son expulsion referme donc sur ses collègues un carcan esthétique qui se double d'un carcan politique. Les conséquences de cet épisode se feront sentir jusqu'à la fin de la RDA, donc pendant toute la durée des années 80. L'ouverture à l'Ouest a donc provoqué une méfiance grandissante entre les deux parties, entre les autorités qui se méfient des écrivains qui éditent à l'Ouest et les écrivains qui s'insurgent contre l'absence d'expression publique libre à l'Est. Maintenant, les conséquences immédiates, donc les intimidations et surtout les exils. Les autorités est-allemandes ripostent par des blâmes, des radiations du parti ou du Schriftstellerverband, mais aussi par des mesures qui visent à criminaliser les rapports des écrivains avec leurs éditeurs ouest-allemands. La publication en RDA, en RFA, est interdite si on n'a pas une autorisation officielle du Bureau des droits d'auteur, et ça même pour les œuvres inédites où la question des droits d'auteur, en principe, ne se pose pas. Cette interdiction coïncide avec, par ailleurs, avec l'intérêt croissant des éditeurs ouest-allemands pour les œuvres de RDA. C'est pas un hasard, évidemment, les prises de contact se multipliant, la répression aussi s'aggrave. En outre, les auteurs ayant déjà publié à l'Ouest voient restreindre l'accès à leurs devises, encore une question économique. L'écrivain Stefan Reim doit ainsi s'acquitter d'une amende de 10 000 marks. Les protestations déclenchent en 1979 de nouvelles procédures d'expulsion et puis une âpre discussion au sein même du Schriftstellerverband, au cours de laquelle Reim, qui est vraiment quelqu'un dont le courage politique n'a jamais désarmé, adopte une posture à la Zola en accusant et en réclamant une liberté d'expression sans restriction. Et face à lui, donc il reste sur une ligne démocratique forte, Stefan Hermelin, qui est plutôt partisan d'une stratégie de négociation. Si je vous raconte ça, c'est surtout pour montrer que vraiment deux camps s'affrontent, y compris au sein du Schriftstellerverband. Et ce sont des camps qui s'affrontent très violemment et ça va nourrir des haines qui vont durer vraiment très longtemps. Donc c'est vraiment la haine ouverte. Cette fracture à l'intérieur du monde des écrivains et du Schriftstellerverband est évidemment due à la manière dont le gouvernement réagit à la pression venue de RFA. Refusant de comprendre que les échanges avec la RFA entraînent un changement irréversible, le gouvernement durcit sa position, donc multiplie les exclusions, les emprisonnements, les assignations à résidence. Les emprisonnements vont d'ailleurs concerner surtout des écrivains jeunes ou peu connus. Mais comme il est impossible d'escamoter complètement le problème, on va évacuer aussi vers l'ouest ceux des écrivains qui deviennent incontrôlables. C'est ainsi que des visas de sortie sont accordés avec une promptitude inhabituelle pour ceux qui veulent s'installer en RFA. Les situations sont d'ailleurs variables. Certains visas ont une durée déterminée, d'autres sont permanents et certains auteurs renoncent définitivement à revenir. Le changement avec les décennies précédentes se marque au fait que ces auteurs qui partent ne sont plus marqués au sceau de l'infamie. Ils ont parfois même droit à un discours d'adieu officiel, comme Günter Kuhnert en 1979. C'est-à-dire que la présence des médias ouest-allemands fait que l'on est obligé d'observer un certain nombre de formes. La vague d'exil, qui est particulièrement marquée donc à partir de 1979, ne cesse de prendre l'ampleur et atteint un pic entre 1984 et 1988. La moitié des auteurs quittant le pays ont émigré dans cette période-là, entre 1984 et 1988. Et c'est ainsi que se constitue sur le sol ouest-allemand, par une sorte de retournement ironique de la situation, une communauté disparate d'écrivains issus de RDA, et qui, pour certains, continuent de combattre un régime dont ils réclament la démocratisation. Par exemple, en 1983, Sarah Kirsch, alors installée en RFA, refuse de participer à Berlin-Ouest à une rencontre pacifique, donc celle dont je parlais tout à l'heure, sur le thème d'Den Frieden erklären, aux côtés de Reim ou de Plenstorff. Mais ce n'est pas pour désavouer ses collègues de RDA, c'est parce qu'elle juge que les auteurs de RFA qui prennent part à cette manifestation sont beaucoup trop dociles envers la RDA, qu'ils sont trop perméables à la propagande du SED. Et un texte de Biermann, qui est postérieur à son expulsion de son pays natal, comme disait Heinrich Böll, non, son expulsion vers son pays natal, pardon, illustre bien ce refus de considérer la RFA comme une alternative satisfaisante au régime de RDA. Je vous cite juste deux vers de Biermann. « Hier fallen sie auf den Rücken, dort kriechen sie auf den Bauch. » Donc pour lui, les deux visages de la soumission sont là, à l'est et à l'ouest. Je voudrais maintenant aborder la question de la génération, parce que ce dont je vous parle là concerne une génération, et dans les années 80, la nouvelle génération, celle qu'on a vue aussi s'intéresser au groupe punk, etc., va aussi entrer sur la scène littéraire. La question d'une éventuelle influence de la figure de l'écrivain engagé ouest-allemand sur l'émergence de l'écrivain est-allemand oppositionnel trouve, avec le poème de Biermann, un élément de réponse. Il est peu probable que les écrivains signataires de la lettre ouverte de 1976, ou encore ceux qui ont quitté le pays ensuite, ont été encouragés dans leur résistance au régime par une quelconque émulation avec des figures comme Böll ou Grass. Donc là encore, on a des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas du tout similaires. L'écrivain engagé en RFA, ce n'est pas l'écrivain de RDA oppositionnel. Les références, d'ailleurs c'est un clin d'œil aux germanistes ici, aux agrégatifs, leurs figures de référence ce sont plutôt, quand ils les citent, Voltaire ou Zola, et pas Böll ou Grass. L'irréductible différence donc entre l'intellectuel engagé de RFA et l'écrivain oppositionnel de RDA tient bien sûr aux réalités concrètes. Il n'y a pas de commune mesure entre les risques encourus à l'ouest et à l'est. L'extrême dissemblance des contextes sociaux et politiques rend la comparaison caduque. Il existe toutefois une cause plus profonde qui tient à ce que les auteurs est-allemands entrent en opposition, le font au nom de leur fidélité au socialisme, c'est-à-dire à un marxisme originel. Même si la RFA a trouvé des vertus au marxisme après 68, ça ravive des liens et des, une espèce d'émulation marxiste comme ça, mais fondamentalement, les auteurs de RDA sont pris dans des conflits de loyauté très profonds. Leur critique du régime ne vise pas à instaurer en RDA une économie de marché ou des structures politiques calquées sur le modèle ouest-allemand, mais à concilier socialisme et démocratie en agissant pour réformer la RDA de l'intérieur. Et c'est pourquoi les interventions occidentales, enfin ouest-allemandes, sont ressenties comme un péril. Mais cette loyauté n'est en réalité qu'un phénomène de génération. Après l'expulsion de Birman, la répression s'est exercée plus durement sur les auteurs plus jeunes et pas connus. Et les auteurs nés après 1950 n'ont pas vécu du tout dans le monde occidental, ils ne le connaissent que par les médias. Ils sont, pour reprendre le titre d'un de ces auteurs, Uwe Kolbe, hineingeboren. Ils sont nés en RDA. L'espérance socialiste se réduit pour eux à l'expérience d'un quotidien qui n'a rien à voir avec les utopies de leurs aînés. Par ailleurs, le sentiment de solidarité qui avait pu souder les écrivains contre le nazisme n'a plus de raison d'être, puisque cette génération née après 50 est aussi nachgeboren. Leur absence d'identification au régime se reflète dans leur existence concrète. Ils préfèrent exercer des petits boulots plutôt que de s'intégrer dans la société. Ils se désintéressent du monde industriel et des institutions officielles. Ils habitent les arrière-cours de Prenzlauer Berg ou les bâtiments délabrés de Leipzig, Jena et Dresde. Et c'est ainsi que naît une véritable scène subculturelle, impressionnante par le nombre d'artistes qui s'y côtoient. Je vais citer ici simplement quelques noms, Sacha Andersson, Lutz Rathenau, qui mélangent les pratiques artistiques, le dessin et l'écriture par exemple. Ils auto-éditent leurs œuvres et ils les diffusent en dehors de tout circuit de production officielle. De nombreuses revues non officielles voient ainsi le jour, sans parution régulière, imprimées de manière artisanale, d'où ma question de savoir comment étaient fabriqués les écussons, avec un tirage allant d'une douzaine à plusieurs centaines d'exemplaires, certaines s'arrêtant après un premier numéro et d'autres parvenant à se maintenir pendant plusieurs années. Un des titres les plus connus et les plus durables est « Der Kaiser ist nackt », encore une fois une métaphore inspirée du Moyen-Âge, édité en 1981 par Uwe Kolbe, Bernd Wagner et Lothar Trolle, qui est ensuite rebaptisé Mikado en 83 et qui perdurera jusqu'en 87. Des écrivains comme Monika Maron ou Bernd Papenfuss-Gorek et Lutz Rathenau y collaborent. Donc ils vivent, se lisent leurs textes entre eux et ne cherchent pas la notoriété. Ils prennent des distances définitives avec la doctrine socialiste, ce qui, chez certains, entraîne aussi une sorte d'absence de sens moral, car le milieu est infiltré par la Stasi, et dans le cas de Sacha Andersson, on a découvert après la réunification, de manière tout à fait surprenante, qu'il utilisait ses interlocuteurs de la Stasi comme des interlocuteurs pour traiter de questions esthétiques. Hein, il avait besoin, voilà, c'est assez surprenant. Faut-il voir dans ce repli sur des relations interpersonnelles quasi privées une des conséquences de la présence accrue de la RFA en RDA depuis le début des années 70? Vers la fin des années 80, 80% de ces auteurs de la subculture passent en RFA. Et pourtant, rien ne permet de dire qu'ils aspirent à adopter le modèle occidental. Il n'en reste pas moins qu'il se situe quand même dans le prolongement de la rupture amorcée dans les années 70 entre les écrivains et le régime, rupture dont l'affaire Birman fut la manifestation éclatante et à l'origine de laquelle figurent les contacts accrus avec la RFA. J'aimerais, en guise de conclusion, poser une question qui mériterait un autre exposé, mais je n'ai plus que 5 minutes, même pas. La présence ouest-allemande en RDA a-t-elle eu des conséquences esthétiques? Est-ce qu'il y a une influence de la littérature ouest-allemande sur les œuvres est-allemandes? Je voudrais d'abord dire que la littérature de RDA ne surgit pas de rien, hein, pour ce qui est des œuvres. Elle est constituée dans les années de l'immédiate après-guerre d'œuvres écrites en exil. Donc ces auteurs-là ont vécu dans le même monde occidental que leurs homologues de l'Ouest. La doctrine réaliste socialiste, ensuite importée d'Union soviétique par les autorités d'occupation, impose des limites, définit ce que doit être et surtout ce que ne doit pas être une œuvre littéraire. Et la littérature occidentale est, dans les années 50 ou 60, qualifiée de formaliste, ce qui est vraiment le reproche maximal qu'on puisse adresser à une œuvre d'art en RDA. Dans les années 80, ce dogme réaliste-socialiste est devenu complètement caduque, même s'il reste officiellement en vigueur. La littérature est-allemande, sortie de son provincialisme, se constitue alors en une avant-garde qui s'exporte au contraire avec brio. Rien n'interdit donc de soutenir la thèse que dans les années 80, la littérature de RDA est devenue beaucoup plus intéressante que celle de RFA. Les éditeurs ne s'y trompent pas, les lecteurs non plus. La possibilité accordée aux auteurs de se consacrer exclusivement à leur art, la reconnaissance officielle qui leur est accordée même paradoxalement par le biais du contrôle, le fait de travailler ensemble, tout cela a abouti à des performances qualitativement remarquables, qui sont d'ailleurs parfois imitées par les auteurs ouest-allemands, ce sera un autre débat. Et dans le domaine esthétique, je donc conclurai de cette manière-là, l'influence s'exercerait donc plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire d'est en ouest. Mais c'est un autre chapitre. Voilà. Je vous remercie. Thank you.